Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas trop de malades, tout va bien. Bon, ben voilà, alors on va parler un peu de la guerre aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pour commencer, je voudrais raconter une petite anecdote, quelque chose que j'ai vécu. En 1997, j'étais en Suisse, je faisais une année de formation à l'IBETO, Institut biblique et théologique d'Orvin. Et on avait un stage de 5 jours dans une église locale. Et là, on était à Lausanne, dans une église des Assemblées de Dieu, très fortement colorée africaine. Et donc, il y avait un jeune responsable des jeunes et tout ça. Dans les églises africaines, il y a le pasteur, puis il y a l'évangéliste. Après, bon, c'était l'évangéliste, mais il n'était pas mauvais en évangélisation. Et donc, il nous a amenés dans la rue, à Lausanne, dans des quartiers assez populaires, pour parler du Seigneur. Et à un moment donné, avant qu'on commence, on prie tout ça. Et avant qu'on commence, il dit « Écoute-moi bien, Satan. On est ici pour annoncer la parole de Dieu. Alors, tu ne vas pas nous mettre des bâtons dans les roues. Et maintenant, je lis ta puissance au nom de Jésus. » Eh bien, dès qu'il a dit ça, dans mon esprit, j'ai senti un crack. Crack. Ça a fait crack. Il y a quelque chose qui a craqué. Et j'ai senti que dans les lieux célestes, dans le monde spirituel, il se passait quelque chose. Et j'ai jamais témoigné si facilement dans la rue que ce jour-là. Il y avait quelque chose qui s'était brisé. Il y avait une autorité qui avait été prise au nom de Jésus-Christ sur la puissance des ténèbres et ça avait libéré les choses. Et on a parlé avec des gens qui étaient très différents. Il y avait des musulmans, tout ça. Enfin, on a parlé avec une aisance et une facilité qui étaient absolument surprenantes. On n'a pas senti cette opposition comme ça, là. Et donc, je voulais en parler avant de parler de ça, parce que j'ai vraiment eu à cœur de vous partager ces choses-là. Alors, on a un texte de base hein, qu'on trouve dans Luc 10. Jésus avait envoyé ses apôtres une fois, les 12, pour prêcher, mais là, dans Luc 10, il a envoyé 70 de ses disciples. Donc, il les envoie deux par deux. Donc, verset 3, il dit « Allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Déjà, c'est pour dire que ça met l'ambiance. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie en disant « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Il leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous soient soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel, dans le livre de vie, dans le ciel. » Voilà, donc ça c'est le texte de base, pour montrer que vraiment, le combat spirituel, l'opposition, c'est quelque chose qui est lié à l'annonce de l'Évangile et à la mission. L'Église, dans sa mission, elle est agressive, elle n'est pas sur la défensive. Des fois elle l'est, à un moment donné. Mais là, il y a une agression de la part de l'Église, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on va dans le champ missionnaire, et boum! C'est nous qui envoyons la sauce, comme on dit. Les missiles, les scuds, tout ce que vous voulez. C'est nous qui les envoyons en premier. Il y a un sommaire ensuite. Donc le sommaire. Il y a 4 points que je voudrais un peu développer. La mission est une agression contre le royaume du diable. Le diable est sur la défensive. L'Église est armée pour mener à bien cette mission. Et nous sommes appelés à marcher en ordre de bataille. Alors sur le premier point, la mission est une agression contre le royaume du diable, il faut comprendre qu'il y a une guerre contre le genre humain depuis le début. Ça a commencé à la chute, où le serpent a séduit Ève et a fait tomber Ève et Adam dans le péché. Mais il y a une promesse en Genèse 3, verset 15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et il y aura une antagonie entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et la postérité du serpent mordra le talon de la femme. Il est bien parlé de postérité. Pourtant, le diable est un esprit. Il ne vit pas dans un corps. Il n'est pas un père qui fait les enfants. Mais lorsqu'on relit, par exemple, la fameuse parabole dont Jésus parle de l'ivraie et du bon grain, dans l'ivraie et le bon grain, il y a les fils du royaume et les fils du malin. Donc les fils du malin, c'est quoi? C'est des êtres humains qui sont sous la domination du diable et qui s'opposent au royaume de Dieu. D'accord. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans la persécution, puisqu'il y a 360 ou 380 millions de chrétiens dans le monde qui vivent une forme de persécution d'une façon comme d'une autre. Donc c'est une vraie réalité que nous vivons, qui est vécue encore aujourd'hui depuis que Jésus est venu et qu'il a accompli son œuvre, et même auparavant. Par exemple, après, il y a d'autres épisodes, par exemple, ce qui s'est passé avant le déluge. Quelle que soit la façon dont on interprète les textes, ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas une poussée des puissances des ténèbres. La terre était remplie de violence à tel point que Dieu a dit « Je regrette d'avoir créé l'homme » et tout ça. Donc on passe rapidement. Alors, le livre de l'Exode est un exemple absolument flagrant et très parlant de la confrontation spirituelle. Hein, quand Moïse arrive devant le Pharaon, il dit « Tu vas laisser aller sortir mon peuple hors d'Égypte. » Il jette son bâton, il se transforme en serpent. Et il y a deux magiciens qui arrivent et ils jettent leur bâton qui se transforme aussi en serpent. Mais que se passe-t-il après? Que se passe-t-il? Le serpent de Moïse dévore les deux autres serpents. Eh ouais, le plus fort quand même, c'est Dieu. Toujours. Ensuite, il y a les fameuses plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte correspondent à des jugements sur les dieux d'Égypte. Par exemple, ils adoraient Ra. Ra, c'est le soleil. Ra. Celui le matin, il disait Ra. Qu'est-ce qui t'arrive? Ra. T'as mal? Non, Ra. Donc, ils adoraient Ra. Mais derrière Ra, il y avait un démon. Il y avait des principautés. Et c'est quelque chose qui est tout à fait expliqué dans la Bible. Dans le psaume 106, quand il parle des sacrifices des enfants, il dit ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Dieu. Ils ont versé le sang de leurs enfants à des idoles. Donc, vous voyez, il y avait démons, idoles dans le même passage. Donc, des faux dieux, derrière le culte des faux dieux, il y a des démons. C'est très clair. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Donc, vous n'allez pas dans les temples païens et vous n'allez pas dans ces choses-là. Vous n'allez pas manger de la viande qui est sacrifiée à des démons. C'est clair pour vous? Donc, c'est vraiment, il faut que ce soit très clair, ces choses-là. Il y a une confrontation. Et dans l'Exode, on voit, par exemple, que Dieu remporte une victoire extraordinaire. La première plaie, c'est l'eau qui est changée en sang. La deuxième plaie, c'est les grenouilles qui envahissent l'Égypte. Et les magiciens du Pharaon, arrivent à faire pareil. Ils arrivent aussi à transformer l'eau en sang. Ils arrivent à faire monter les grenouilles d'Égypte. Mais la troisième plaie, c'est à partir de la poussière, Dieu crée des moustiques pour envahir l'Égypte. Et là, les magiciens, ils n'arrivent pas, ils disent, c'est le doigt de Dieu. Et là, ils sont calés. Ils n'arrivent plus. Parce que c'est un acte de création, à partir de la poussière. Et donc, Satan est limité. Oui, il est très limité. Il est plus que limité. Et il est toujours battu. Il est toujours battu. Et après, on voit la confrontation d'Élie et des prophètes de Baal. Élie, il est tout seul. Il y a je ne sais pas combien de prophètes de Baal, 400. Et il dit, allez, on va faire un sacrifice. Celui qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu. Donc, ils font un sacrifice. Alors, ils font des danses, tout ça. Ils se coupent en petits morceaux et tout ça. Ils se font saigner et tout. Baal, réponds-nous, pendant des heures, Baal. Alors lui se moque d'eux, il dit, Baal, il est où là? Il est aux toilettes? Hein, il est constipé? Et puis après, lui, quand c'est son tour à lui de faire son sacrifice, il met plein d'eau. Pff, il met de l'eau partout, c'est envahi d'eau, c'est bouillé, c'est mouillé. Normalement, ça ne doit jamais prendre feu. Et puis là, il invoque Dieu, il dit, voilà, je suis là sur ta parole pour ramener ton peuple à toi. Et Dieu, il répond par le feu, et ça crame tellement que je me demande à quelle distance était Élie, parce qu'à mon avis, il a dû fumer, tu vois. Seigneur, j'en demandais pas tant. De la fumée partout, tous les poils aussi. Bon. Mais c'était tombé tellement fort que ça a dû vraiment faire mal. Et les mecs qui étaient autour, qui regardaient, ils disent, ben nous, on n'a rien demandé du tout, ça nous a pas empêché d'être caramélisés, tu vois. Donc, ça a dû trapper très fort. Mais là, on va voir la différence entre la puissance de Dieu et celle de l'ennemi. Parce que Baal, c'était, entre guillemets, Baal, ça veut dire Seigneur. Hein, donc, est-ce que c'est l'Éternel qui est Seigneur ou est-ce que c'est Baal qui est Seigneur? C'est ça l'enjeu, en fin de compte. Et donc, Baal, c'était l'idole, enfin, la divinité la plus adorée dans la région de Canaan. Donc, c'était une idole païenne, absolument abominable. Et son culte, puisqu'il était marié à Astarté ou à Shéra, qui était une déesse de la fertilité et de la guerre. Et donc, le culte d'Ashéra, eh bien, fertilité, c'était lié à de la prostitution sacrée. Donc, ça y allait, quoi. Hein, c'était open bar, comme on dit. Donc, il y a eu toutes ces confrontations. Et donc, après, on voit que Satan accuse Job. Il accuse Josué, le grand prêtre, dans le livre de Zacharie. Et on voit toujours que derrière, la puissance du diable, c'est pour voler la gloire à Dieu. C'est pour détourner l'adoration qui va à Dieu à cause de sa gloire et pour la tourner vers lui ou vers autre chose que lui, que Dieu, et faire tomber les gens dans le péché. Donc il est, comme dit Jésus, il est menteur, il est meurtrier. Depuis le début, il est plus que méchant. S'il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est lui. C'est absolument lui. Et quand Jésus arrive, ça change tout. Donc Hérode veut éliminer le nouveau-né, Matthieu chapitre 2. Jésus, dès qu'il est baptisé, il va dans le désert. Il est tenté par le diable pendant 40 jours. Évidemment, il gagne la victoire là où Adam et Ève avaient perdu, mais aussi 40 jours, c'est les 40 ans de pérégrination dans le désert d'Israël. Et Israël, lui, est tombé régulièrement dans le péché. Mais Jésus, lui, il a vaincu, il a triomphé. Il a triomphé de la tentation pendant ces 40 jours. Dès qu'il sort de là, il nous est dit que Jésus, il revient rempli de la puissance du Saint-Esprit, donc il est rempli de l'Esprit, mais avec la puissance, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les démons, il prêche l'Évangile, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Et qu'est-ce qu'il dit? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc il y a une confrontation de deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et qui est-ce qui agresse l'autre? Qui c'est qui passe à l'attaque? C'est le royaume de Dieu. Jésus dit, si vous liez l'homme fort, vous allez prendre toutes ses dépouilles. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dans le désert, il a lié l'homme fort, après il a pris ses dépouilles. Et badaboum, et badaboum, et partout où il passait, excusez-moi de le dire, Satan, il prenait une tôle. Et boum, j'ai mal, chef. Donc il prenait une tôle. Chaque fois, il en prenait une, il prenait une claque. Et pouf. Donc Jésus, en plus, il va résister au péché contre la croix, il va mourir, il va ressusciter d'entre les morts, il repart auprès du Père, il s'assied sur le trône, il bâtit son église, il intercède pour les croyants et il revient bientôt. Et Satan n'y pourra rien. Il va s'opposer de toutes ses forces. Il n'y pourra rien. Ça rappelle les épisodes de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu le débarquement des Alliés. Il y avait, contre l'Allemagne nazie à l'époque, contre les nazis, il y avait la pression de la Russie à l'Est et la pression des Alliés à l'Ouest. Si Hitler avait été intelligent, il aurait pu dire c'est une question de temps, mais je vais perdre. C'est évident, je vais perdre. Ils sont vachement plus nombreux, ils sont vachement plus forts. Et maintenant, ils ont débarqué en France, ils ont une tête de pont, ils peuvent débarquer des armes, des hommes, du matériel, tout ce que tu voudras, de la logistique et tout. Et c'était une question de temps. Simplement, il était tellement barré dans son idéologie et dans son orgueil qu'il s'est entêté jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il se suicide. Et Satan, il fait pareil. Il sait qu'il a peu de temps, mais il va s'entêter jusqu'à la fin. Donc il ne va pas nous lâcher, entre guillemets. Il va nous poser des problèmes autant qu'il pourra. Et Dieu le permettra. Parce que c'est son plan. Alors, il y a une chose que j'aimerais dire, qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que le combat spirituel, c'est pas quelque chose que Dieu subit ou contre lequel il réagit. Le combat spirituel, c'est Dieu qui le suscite, c'est Dieu qui le contrôle, et c'est lui qui en est vainqueur, pour sa gloire, pour sa propre gloire. Dieu va se glorifier et Dieu va montrer qui il est réellement. Par exemple, c'est ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode. Alors, la victoire est totale, la victoire de Jésus à la croix est totale, il est écrit, mais eux, ceux qui ont cru en Jésus, ils l'ont vaincu, c'est-à-dire le diable, grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter la mort. Et 1 Jean 3,8 nous dit, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. L'évangile détruit les œuvres du diable. Parce que l'évangile, on va le voir, par exemple, dans Hébreux, il est dit, ainsi donc, puisque ses disciples, c'est-à-dire les disciples de Jésus, sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions, donc il s'est incarné. Il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort. Et donc, on vient de lire qu'avant, ceux qui croient en Jésus, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort parce que Jésus les a délivrés de la peur de la mort. Et donc, quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur disait, ne craignez pas celui qui peut faire mourir le corps, mais celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la gêne de feu, dans l'enfer. Et donc, le fait que le Seigneur nous délivre de la peur de la mort parce que nous savons que nous ressusciterons avec lui, nous savons que nos péchés sont pardonnés, nous savons que nous sommes justifiés par le Christ, nous donne une force qui effraie le diable, à laquelle le diable ne peut rien. C'est pour ça qu'il peut s'opposer tant qu'il veut. Il y a eu un certain nombre de frères qui ont même donné leur vie, qui ont même perdu leur vie physique à cause du Seigneur, qui maintenant évidemment sont auprès du Seigneur. On le voit, le premier martyr, c'est Étienne dans le livre des Actes. Mais ces gens-là n'ont pas eu peur de la mort. Étienne n'a pas eu peur de la mort. Et quand Paul était en prison et qu'on allait le juger, eh ben, il dormait. Vous voyez, vous lisez le livre des Actes, il dormait lui. Et puis voilà, là, il y a un ange qui l'a libéré parce que ce n'était pas le plan de Dieu qu'il meure à ce moment-là. Mais voilà, je veux dire, il y a ce qui enrage le diable, c'est qu'il ne peut plus nous faire mourir. Parce que ce qui mène à la mort, c'est le péché a été vaincu, le péché est pardonné, ça c'est le sang de l'agneau qui nous donne cette victoire totale, définitive, et ça coupe l'herbe sous les pieds du diable. Parce que lui, son mode, c'est l'accusation. Son mode, c'est le fait de réclamer les âmes à Dieu, comme il a fait pour Job, comme il a fait pour quand Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Et donc, c'est ça qu'il essaye de faire. Il essaye de nous accuser. Il a été précipité, celui qui nous accusait tous les jours devant Dieu. Il est l'accusateur, il est le blasphémateur, il est comment ça s'appelle ? Il est le, comme on dit, le diable, ça a une autre signification, le diable. C'est celui qui calomnie, voilà. Il est le canonnateur, il est le diviseur, il est le meurtrier, il est le menteur. Ce qu'il a envie, c'est qu'on se monte les uns contre les autres. Ce qu'il a envie, c'est qu'on soit divisé. Ce qu'il a envie, c'est qu'il y ait au milieu de nous de l'animosité, du ressentiment. Tout ça, ça c'est son royaume. C'est son royaume, c'est sa tasse de thé. C'est sa soupe, c'est son repas. Il aime ça, il est méchant et mauvais jusqu'au bout des ongles. Il nous hait d'une haine que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, mais il a été vaincu. Jésus l'a complètement dépouillé. Avant qu'il meure, il a dit « Bientôt, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et c'est ce qui s'est passé. Après la croix, oui, il a été précipité. Celui qui nous accusait tous les jours devant Dieu. Voilà. Et maintenant, il fait de la résistance. Comme Hitler à la fin de la guerre. Il fait de la résistance. Il fait ce qu'il peut. Mais celui qui conduit le combat spirituel et qui va le vaincre, c'est le Seigneur. Amen. Donc Satan est sur la défensive. Il n'est pas à l'offensive. Donc, pour reprendre ce qu'on vient de dire, je relis Apocalypse 12 au verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Réjouis-toi donc au ciel, un peu plus loin, au verset 12. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, ça c'est les anges et les frères qui sont là-haut. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Il sait qu'il lui reste très peu de temps. Alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage de Jésus. C'est la guerre. Qu'on le veuille ou non. L'autre jour, je parlais avec un frère au milieu de nous qui prêche ici. Je ne vais pas vous dire qui c'est parce que ce n'est pas l'important. Et il me dit, préparer une prédication quand même, c'est difficile et tout ça. Et moi, je lui réponds tout de suite sans réfléchir. Hein. J'ai même pas eu le temps de penser à la réponse. C'est venu directement dans mon cœur. Je lui dis, c'est normal, c'est la guerre. Je lui dis, c'est la guerre. Tu veux prêcher droitement la parole de Dieu, tu crois que l'autre, il va te laisser tranquille? Non, c'est la guerre. Il y a ta fois ta chair qui n'a pas envie. Et en plus, il y a le diable qui vient mettre sa dose. Il me dit, oui, c'est la guerre, c'est la guerre. Alors, c'est la guerre, mais l'Église est armée pour mener à bien cette mission. Voilà, alors on va parler d'un passage qui est dans le livre des Actes. À un moment donné, comme au début à Jérusalem, ça,
Ça y allait très fort, l'évangile était prêché, des signes, des prodiges, des miracles et tout ça. Et les gens se convertissaient, enfin un certain nombre de gens se convertissaient, mais les autorités juives, elles n'étaient pas contentes, elles. Hein, parce qu'ils disaient que Jésus était ressuscité, et c'est eux qui l'avaient fait tuer. Donc l'accusation retombait sur eux, alors que c'est eux, c'est marrant comment le diable s'est fait avoir, là. Il avait inspiré ces gens pour qu'ils accusent Jésus. Bon, ils avaient leurs propres problèmes, ils avaient leur propre responsabilité, bien évidemment. Mais il avait vraiment inspiré ces gens pour qu'ils accusent Jésus, et l'accusation retombait sur eux. Et paf, ils n'étaient pas contents. Voilà, ils n'étaient pas contents. Donc là, ils avaient mis donc les apôtres en prison, et ils leur avaient dit, vous interdisons de prêcher au nom de Jésus, sinon ça va tarter et tout ça. Ça va se passer pour vous. Et ils ont dit, mais non, nous on va continuer parce qu'en fait on va obéir à Dieu, tant pis pour vous. Donc une fois qu'ils les ont relâchés, ils sont allés voir tous les chrétiens. Comment ils ont réagi? Ils n'ont pas dit, oh, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des gentils, nous sommes attaqués par des méchants. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, on va combattre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. On va combattre. On va prier. Donc ils ont prié et puis ils ont dit, voilà Seigneur, ce qui s'accomplit, eh bien, c'est écrit dans les Écritures, psaume 2. Hein. Pourquoi les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel et contre son Messie, psaume 2. Et la réaction de Dieu, c'est de rigoler. Quand tout le monde se lit contre Dieu, Dieu il rigole. Qu'est-ce qu'il reprend là? Ils sont constipés, ils sont malades, ils ont pas bien mangé, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et le Seigneur, lui, il rigole. Le monde entier se lit contre lui, pas un problème. J'ai déjà vu d'autres. Donc, là, ils prient, et puis après, ils disent, maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent, et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alors, comment on réagit? Eh bien, quand on veut s'opposer à l'Évangile, on annonce la parole avec une pleine assurance. Mais ça, on le fait par la puissance de Dieu. Donne à tes serviteurs. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des miracles, et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds et l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas liée, elle a un pouvoir qui nous échappe. C'est la parole, parce que c'est la parole de Dieu, créatrice du monde et rédemptrice. C'est cette parole-là que le monde ne veut pas entendre, mais c'est cette parole-là qui est la source de son salut. Et cette parole-là, c'est le diable. Il veut nous combattre et va vouloir nous faire taire. Nous faire taire. Là, vous avez peut-être vu le reportage qui a été fait sur les évangéliques, c'était la semaine dernière, ouais, qui est passé à envoyé spécial. On se demande ce qu'il y a de spécial, d'ailleurs. Et c'était tout à charge, c'était complètement... C'était pas du tout objectif. Tout était à charge, même les questions, c'était des questions pièges et tout. Et là, je me suis dit, ouais, on est bien dedans. Bon, ils le font pour l'audimat, ils sont dans le pathos, ils veulent créer l'émotion qui font que, oh là là, t'as entendu, oh, t'as vu ce qu'on a dit là sur les évangéliques, mais alors, t'as vu comment ils se comportent et tout, hein. Tout ce reportage, c'était du grand n'importe quoi. Enfin, je l'ai vu en partie, je me suis dit, mais. C'est pire que tout ce que j'ai entendu avant. On en a déjà eu quelques-uns comme ça. Et tout est complètement à charge. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est ça, ouais. C'est la guerre. On est complètement dedans. Le diable, c'est le calomniateur. C'est celui qui va chercher toutes les possibilités qu'il a pour nous accuser. Comme il ne peut plus nous accuser devant Dieu, il nous accuse devant les autres, il nous accuse devant le monde et il nous fait passer. Pour ce que nous ne sommes pas, ce qui est arrivé aux premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, on disait qu'ils étaient athées, parce qu'ils ne pratiquaient pas la religion comme les autres. Ils étaient athées. Les premiers chrétiens, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. Les premiers chrétiens, ils ne s'accordaient pas avec la mentalité ambiante, parce que dans la mentalité ambiante, être doux et humble de cœur, c'était pas une qualité, c'était un défaut. C'était force et honneur. L'esprit romain. Force et honneur. La Légion. C'était ça, force et honneur. Et ça plaisait pas. C'était pas dans l'air ambiant. Voilà. Aller récupérer les enfants abandonnés, parce que quand on n'en veut plus d'un enfant, on l'exposait, c'est-à-dire on l'abandonnait. Les chrétiens, ils allaient récupérer les enfants qui étaient abandonnés. C'était pas dans la mentalité de l'époque. Voilà. Aujourd'hui, si vous dites quelque chose contre l'avortement, on vous regarde comme si vous étiez un monstre. Mais qui vous regarde, mais t'es quoi toi, t'es qui? Oh là, oh là. Si vous n'êtes pas d'accord avec les LGBT, mais alors, oh là là, t'es comme si, t'es X, Y, Z phobe. Il y en a tellement qu'il y a une liste de phobes comme ça. Lequel tu préfères? Celui-là, celui-là, celui-là. Et donc, c'est comme ça. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est arrivé sous d'autres formes, à d'autres endroits et à d'autres époques. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Rien. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu, ça, on va le vivre. Et on va en prendre plein les trous de nez. Ce n'est pas grave. Le Seigneur est vivant. Ça n'empêchera pas de bâtir son Église. À nous de combattre le bon combat de la foi. Et Paul dira à Éphésiens, pour conclure sa lettre, toute sa lettre, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance, revêtez-vous de l'amour de Dieu, l'armure de Dieu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. C'est quand même un appel, c'est une mobilisation. C'est un appel au combat. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes, comme on vient de le voir dans Actes, sous la conduite de l'Esprit, faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Donc quand nous prions pour les chrétiens persécutés, entre autres, nous faisons ça, mais quand nous prions pour l'Église, que nous disons à Dieu, répands ton esprit, fortifie les chrétiens pour qu'ils connaissent l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Fortifie-les pour qu'ils s'enracinent et qu'ils se fondent. Regardez comment Paul priait pour les chrétiens. Vous lisez Colossiens, vous lisez Éphésiens, vous lisez Philippiens. Vous voyez comment il priait pour les chrétiens. Moi, j'ai compris il y a 15 ans, parce que j'ai pas eu besoin d'une révélation, mais parce que je cherchais Dieu. Donc, je me mettais entre midi et deux, j'allais bouffer mon sandwich, je me mettais dans un endroit seul et je priais. Et je priais les prières de Paul. Pourquoi? Parce que j'avais compris que ça marchait. Parce que c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, ça marche. La parole de Dieu, ça marche. Quand tu obéis, ça marche. Et je priais comme ça pour les églises, pour mon église, je priais comme ça, parce que c'est comme ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est écrit dans la Bible. À un moment donné, c'est bien d'obéir. Ça fait beaucoup de bien. Alors, après, donc, une fois qu'on a bien compris cette importance de la prière vigilante et constante, et l'intercession. L'intercession. Lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, les choses bougent. On le voit dans le livre de Daniel. Daniel, il a pris un jeûne de 3 semaines, un jeûne partiel. C'était un jeûne de deuil, quoi, comme un deuil. Et il a eu une réponse, c'est-à-dire Dieu a envoyé quelqu'un qui ressemblait comme Jésus dans l'Apocalypse, par hasard. Et puis il a envoyé aussi les anges, il a envoyé Gabriel. Comme les gens qui sont venus vers Daniel ont reçu l'opposition du prince de Perse. Or, ce prince de Perse, c'est une autorité, justement, mais c'est une autorité démoniaque. Hein, ils ont eu besoin du secours de Michaël. Michaël, c'est l'archange qu'on veut le plus combattre dans l'Apocalypse, on le voit. Michaël et ses anges ont combattu le Satan et ses anges. Et donc, on voit qu'ils ont commencé à prier, il y a eu un combat spirituel, mais il y a eu une opposition. Et il a fallu percer. Il a fallu persévérer. Et donc, ce combat, il a quand même été remporté par le royaume de Dieu. Et donc, notre frère Daniel, il a reçu des révélations et des réponses, comme il les demandait à Dieu. C'est incroyable, ça. Et ça montre que le Seigneur, il répond. Quand on prie, quand on cherche Dieu, le Seigneur, il répond. Il répond. Et ça, c'est ça, nous devons vraiment garder ça. Et donc, le diable, il a peur d'une église qui prie dans la foi, qui prie et qui intercède, qui combat dans le monde spirituel. Qui croit qu'elle a reçu l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, qui croit que le Seigneur l'a revêtu. Nous sommes ses enfants et nous ne sommes pas de la race de l'autre. Nous sommes les enfants du royaume. Et nous avons cette autorité et nous avons cet ordre de marche qui nous est donné pour aller, pour marcher et pour combattre. Donc, marcher en ordre de bataille. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Pourquoi ce verset? Parce qu'une des choses que le diable va essayer absolument de mettre au milieu de nous, c'est la zizanie. La zizanie, la zizanie, c'est ce qu'il y a de pire, c'est la division. Donc le diable, il attaque l'Église de deux façons. À l'intérieur, par la division, par la séduction du péché et par les fausses doctrines, hein, que Paul disait à Timothée, dans les derniers temps, il y aura de faux docteurs qui annonceront des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Voilà. C'est bien clair, hein, la Bible est très claire. Et on le voit, par exemple, dans ce qui se passe dans Philippiens, il y avait ce problème de division latente, de désentente. Et Paul, il est radical avec ça. Il leur dit, vous devez régler ce problème. Vous devez le régler, vous, entre vous. C'est à vous de faire preuve de maturité et de régler vos problèmes relationnels. Vous devez le faire, ce n'est pas une option. Vous ne devez pas attendre que c'est l'autre et tout ça. Vous devez le faire. Après, nous voyons dans Actes 2, 42, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Ça, c'est l'Église unie, rassemblée, qui obéit à Dieu. Et ça, le diable, il a peur. Parce qu'il y a de l'engagement, de la persévérance, de l'unité, de la communion fraternelle, de l'amour entre les frères et tout ça. Ça, ça lui fait peur. Et c'est ça que nous devons rechercher. C'est cette assiduité. C'est cette persévérance. C'est ce désir d'aller de l'avant. Ce désir de se nourrir de la parole de Dieu. Ce désir de s'édifier ensemble, de s'encourager. On en parle beaucoup de l'encouragement dans le groupe de frères. Le désir de prier pour que des choses arrivent, pour que des choses se passent, que Dieu veut voir, que Dieu veut faire en nous, avec nous et au milieu de nous. Et après, il y a aussi le fait d'être prudent, faire preuve de modération et soyez vigilants, dit 1 Pierre 5, 8 à 9. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Le contexte de 1 Pierre, c'est la persécution. Donc, là, on est en train de parler de l'opposition. L'opposition que le diable met pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc, qu'allons-nous faire? Bon, je vais reprendre rapidement les points. Que devons-nous faire? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, s'éloigner de plus en plus de choses du diable, donc tout ce qu'il veut faire pour nous détruire, et par contre rechercher le Seigneur. Ça, le diable ne veut pas que nous le fassions. Donc, s'il peut nous disperser, s'il peut nous distraire, parce qu'on vit dans un monde de distraction, s'il peut nous distraire, s'il peut nous disperser, s'il peut nous mettre dans des problèmes qui sont certes légitimes, des fois, dans des activités qui sont certes légitimes, mais qui nous prennent tellement de temps, tellement d'énergie. Et pendant ce temps-là, eh bien, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur nous demande aussi de mettre nos priorités, d'être sobre dans certaines choses et consacré dans d'autres. Alors, bon, j'ai trois points pour résumer ce que j'ai dit. Prendre conscience que le royaume de Dieu agresse celui de Satan et le domine. Donc ça va dans ce sens-là. C'est Satan qui est sur la défensive. Le diable a peur et est en colère. Il fera tout pour nous empêcher de rentrer dans notre vocation de fils de Dieu et remplir le mandat missionnaire. Utiliser l'amour de Dieu et la prière fervente et persévérante pour le terrasser encore plus. S'arrête là. On va prier. Si vous ne connaissez pas ce Jésus qui libère du pouvoir de Satan, si vous ne lui avez pas donné votre vie, eh bien vous n'êtes pas encore dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Satan, c'est plutôt celui qui va vous dominer. Le libérateur, ce n'est pas moi, ce n'est même pas l'Église, c'est le Seigneur. Nous prêchons l'Évangile. Voilà, nous prêchons l'Évangile. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Comme je disais à notre ami Pascal, c'est la tête sous la tacoune. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Paul disait à l'Église de Rome, Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc ça veut dire que ça se passe en plusieurs phases. Et au retour du Seigneur, nous serons complètement débarrassés de son emprise. Merci Seigneur. Donc ça se passe en plusieurs phases, comme la Seconde Guerre mondiale. Il y a le débarquement, et puis après, un an après, il y avait l'armistice. Et Satan, il va faire comme Hitler, il va se buter, mais il va perdre la bataille, c'est sûr. C'est sûr. Mais le Seigneur va le faire avec nous. Le Seigneur nous demande d'être prudents, de faire ce que nous avons à faire. Et je vous invite vraiment à parler à Dieu maintenant et à lui dire, moi Seigneur, je veux choisir mon camp aujourd'hui. Il n'y a pas de Suisse dans le monde spirituel, il n'y a pas de terrain neutre. On est dans un camp ou dans l'autre. Il n'y a pas de terrain neutre. Amen, amen. Allez, je vous invite à prier.